Alors, un deuxième texte, toujours dans ce chapitre sur l'ivraie, qu'on trouve dans le prophète Ézéchiel, et qu'on connaît peut-être moins, parce que c'est vrai que nous, catholiques, on lit peut-être un peu moins l'Ancien Testament, enfin, en tout cas celui-là. Il parle de... c'est une prophétie contre Gog. Pourquoi je lis ce texte-là? C'est parce que je pense que l'ivraie qui pousse dans le champ, qui est le monde... L'ivraie, c'est un petit peu, pour moi, ça représente ce qui pousse au pays de Magog, en fait. On parle de Gog et Magog dans la Bible. Et Gog, c'est le roi impétueux, et Magog, c'est le pays du méchant roi, voilà, qui exerce la violence. Donc c'est dans Ézéchiel 38. « Il y eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, dirige ton regard vers Gog, au pays de Magog, grand prince de Méchec et Toubal. Prononce un oracle contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. » Je viens contre toi, Gog, grand prince de Méchec et Toubal, et je t'entraînerai, je mettrai des crochets à tes mâchoires. Je te ferai sortir avec toute ton armée, chevaux, cavaliers superbement vêtus, vastes troupes portant écus et boucliers, tous maniant l'épée. La Perse, la Nubie, Put seront avec eux, ayant tous boucliers, casques. Gomer avec tous ses escadrons, Beth, Togarma à l'extrême nord avec tous ses escadrons, de nombreux peuples seront avec toi. Prépare-toi bien, toi et toute l'assemblée que tu as réunie auprès de toi. Tu seras leur protection. Depuis bien des jours, on aurait dû intervenir contre toi. Cela arrivera à la fin des ans, sur une terre dont la population a été entraînée après le passage de l'épée. Venue de pays très peuplés, elle a été rassemblée sur toutes les montagnes d'Israël qui avaient été longtemps en ruine. Cette population a été retirée des peuples et elle habitera tout entière en sécurité. Tu monteras, tu arriveras en tempête, tu seras comme une nuée recouvrant le pays. Toi, tous tes escadrons avec de nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu en ce jour-là. De nombreux projets te monteront au cœur. Tu inventeras un plan malfaisant. Tu diras, je monterai contre ce pays sans défense. J'arriverai vers des gens tranquilles, vivant en sécurité. Ils habitent tous des villes sans murailles. Ils n'ont ni verrou ni porte. Tu viendras pour entasser du butin, pour piller, pour tourner ta main contre des ruines repeuplées, contre un peuple rassemblé d'entre les nations qui s'occupent de son bétail et de ses biens, et habitent le nombril de la terre. Saba, Dédan, les trafiquants de Tarsis et tous ces lionceaux te diront « Est-ce pour entasser du butin que tu es venu? Pour piller que tu as réuni ton assemblée? Pour prélever de l'argent, de l'or, pour prendre du bétail et des biens pour entasser un grand butin? C'est pourquoi prononce un oracle, fils d'homme, tu diras à Gog, ainsi parle le Seigneur Dieu, le jour où mon peuple d'Israël résidera en sécurité, n'auras-tu pas la connaissance ?» Tu viendras de ton pays de l'extrême nord, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux. Vous formerez une grande assemblée, une immense armée. Tu monteras contre mon peuple d'Israël au point de recouvrir le pays comme une nuée. Cela se passera à la fin des temps. Je te ferai venir contre mon pays afin que les nations me connaissent, quand sous leurs yeux, ô Gog, j'aurai montré ma sainteté à tes dépens. Etc, etc. Et ça continue et on voit le Seigneur qui explique comment il va mettre fin à Gog et à son orgueil. Voilà, donc c'est vrai que si on met en parallèle ce roi, donc Gog dans la Bible, c'est la violence. Voilà, c'est l'ennemi qui se sert de la violence pour arriver à ses fins. Et Magog, c'est le pays dans lequel il habite, et on voit, tu monteras, tu arriveras en tempête, tu seras comme une nuée recouvrant le pays. C'est-à-dire qu'il va saturer de mauvaises semences le champ du monde. Voilà, et de nombreux projets te monteront au cœur. Tu inventeras un plan malfaisant, on voit finalement des projets pervers qui sont mûrement réfléchis. Je monterai contre un pays sans défense, et c'est vrai qu'à l'époque de l'Égypte, si je reviens à l'histoire d'Israël, ils s'étaient installés en sécurité, puisque ils étaient les descendants de Joseph, qui avait grandement aidé le peuple égyptien, et qui l'avait protégé contre les 7 ans de famine, en entassant du blé, et pendant 7 ans de vaches grasses, il avait entassé du blé, et pendant les 7 ans d'après, il s'était servi finalement de cette réserve pour nourrir l'ensemble du peuple. Et on voit bien que la technique de Gog, c'est de cultiver un pays où on a du mal à reconnaître les plantes, où on se prend les pieds dans les mauvaises plantes, voyez, si on rapproche ça des différentes paraboles énoncées par Jésus, on voit que ces mauvaises plantes, ça va faire des ronces qui vont étouffer les bonnes semences, ça va faire des sentiers caillouteux parce qu'ils vont passer en pleine nuit et ils vont piétiner, ça va en fait rendre le terrain moins fertile. Voilà. Ça va faire pousser les chardons, ça va provoquer une forme de révolte de la nature finalement qui va devenir un peu hostile à l'homme parce que l'homme qui va s'endormir sur ses lauriers, je ne sais pas, il va se retrouver un peu piégé dans ce champ où au départ il y avait de la bonne semence, quoi. Magog, c'est ça. Et aujourd'hui, notre pays est peut-être plus concerné par Magog, parce qu'aujourd'hui on est en paix en France, alors que d'autres pays, on peut penser à Gog plus spontanément, les pays, je pense aux pays arabes, l'Arabie Saoudite, les pays où les chrétiens sont persécutés frontalement. Nous, ça va être une persécution plutôt... Enfin, on ne peut pas vraiment parler de persécution en tant que telle. On va parler plutôt de petit à petit, on va changer les lois, on va mettre les chrétiens en porte-à-faux sur un certain nombre de sujets où nous, on cherche simplement à avancer, à défendre la vérité, à raisonner. Et puis, dès qu'on cherche à raisonner, il y a ces plantes vénéneuses qui vont nous enquiquiner tout le temps, quoi. Donc, voilà, Gog et Magog, c'est un petit peu ça. Et aujourd'hui, je trouvais intéressant de réfléchir sur Magog. Donc Magog, c'est le champ où l'ivresse devient dominante, ou au moins en apparence. Voilà. Parce qu'en réalité, l'ivraie n'est pas dominante, mais c'est des plantes qui prennent de la place. Et du coup, nous les chrétiens, on peut être un peu tentés de se plaindre du fait que c'est difficile d'être chrétien, etc. Alors qu'en réalité, les épis de blé aujourd'hui ont une fécondité particulière, quoi. Le Seigneur va donner à l'Église en tout temps ce qu'il faut pour résister. Et nous, il va nous donner des faucilles, peut-être. En général, c'est plutôt en exploitant les vertus du blé, donc des sacrements, par exemple, d'un certain nombre de choses qui nous sont données à notre époque aujourd'hui, qu'on va être à même de laisser Dieu arracher les mauvaises plantes. Donc, on va regarder ce que dit l'Exode sur la manière dont Pharaon va refuser un certain nombre de fois les appels que Dieu lui lance à travers Moïse. Donc c'est pas une étude systématique des 10 plaies d'Égypte aujourd'hui, c'est plutôt regarder les refus de Pharaon sous l'angle de l'ivraie. Comment évoluer dans ce champ sans se retrouver obligé d'en manger, parce qu'on est confronté de plein fouet finalement à ces mauvaises plantes quand on va au front, quoi. Alors je vous ai fait des petits papiers. Donc j'ai découpé en fait le texte de l'Exode, j'ai gardé certains versets et j'ai mis des petits points. Le micro. J'ai mis des petits points quand je sautais des passages. J'ai fait apparaître les plaies en gras, enfin vous voyez, en blanc gras. Donc moi j'ai regroupé en 7 confrontations, 7 extraits. Un peu 7 types de confrontations qui se produisent dans la vie spirituelle. La partie introductive. Donc, alors un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph se leva sur l'Égypte et il dit à son peuple : voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui pour qu'il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos ennemis, il se battrait contre nous et il sortirait du pays. Donc là, on a ce que j'identifierais au semi, en fait. Là, on est en amont de la confrontation entre Moïse et Pharaon, c'est-à-dire en amont d'un appel à la mission. Et c'est comment Pharaon va distiller des mauvaises graines dans son pays, qui avant était béni, puisqu'il avait pris comme grand échanson, je crois, enfin son prédécesseur, il avait pris Joseph en disant « tu dispenseras tous mes biens, quoi ». Donc, on a... d'abord, il dit « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. » On a une considération un petit peu de... Enfin, moi, si je devais manipuler une foule, c'est ça que je ferais, quoi. De faire peur à tout le monde en disant « Regardez, ils sont nombreux !» Y a ce qui s'est passé avec Jésus, c'est ça. C'est un argument un peu spécieux. Ils sont nombreux, donc il y a un danger, quoi. Alors que le peuple aurait pu dire, mais oui, d'accord, mais c'est les descendants de Joseph, il n'y a pas de raison qu'ils nous fassent du mal. Ces gens-là, ils nous ont sauvés en leur temps. Pourquoi ? Voilà. Et donc, il fait monter un peu la pression et il enchaîne en disant, prenons donc de sages mesures contre lui. Et le mot sage dans la Bible, il s'agit d'être expert Dans la science, en fait, c'est ça la sagesse. C'est le sage, c'est l'agriculteur qui connaît par cœur ses plantes et les saisons. C'est le roi qui connaît par cœur l'art de gouverner. Et donc là, il est en train d'employer un mot qui contraste avec l'argument d'avant, puisqu'il utilise la peur et il enchaîne sur la sagesse en disant donc il faut être sage, alors qu'il s'agit d'un argument spécieux. Il devrait donc dire donc il faut s'arrêter et raisonner ensemble, là, comment nous allons faire, et je vais prendre votre opinion pour prendre les bonnes décisions. Là, il est en train d'imposer quelque chose en argumentant qu'il est expert, enfin voilà, c'est de la rhétorique, hein, pour qu'il cesse de se multiplier, une atteinte à la fécondité du peuple. Et puis il enchaîne, en cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos ennemis, il se battrait contre nous, il sortirait du pays. Voilà. Donc là, on est sur un exemple de motivation du semeur, du deuxième semeur, celui qui vient de nuit. On imposa donc au peuple d'Israël des chefs de corvée pour le réduire par des travaux forcés. Donc là, on est sur plutôt Gog, la manifestation de Gog, c'est-à-dire violence frontale. On va mobiliser une armée, on va rentrer en guerre contre un pays, on va l'opprimer. Et il bâtit pour Pharaon des villes entrepôts qui s'appellent Pithom et Ramsès. Alors, c'est intéressant parce que les villes entrepôts, je suis allé voir en fait en hébreu, parce qu'il y a des sites qui permettent d'aller voir les mots hébreux, voilà. Les villes entrepôts, étymologiquement, ça veut dire ville entrepôt, ça veut dire je vous fais construire quelque chose qui vous accable. Je vais changer les lois pour que votre travail quotidien contribue à vous accabler. C'est-à-dire, je mets en place une mauvaise semence, et cette mauvaise semence, vu que vous allez devoir l'arroser tous les jours, vous allez vous retrouver contraint de faire pousser vous aussi les mauvaises plantes. C'est ça, les villes entrepôts. Alors ensuite, il y a Pithom et Ramsès. Alors, Pithom, c'est qui met en danger. Non, pardon, c'est Pithom, c'est bouche de l'enfer, et Ramsès, c'est écrasé. Oui. Donc, on se retrouve obligé de construire quelque chose qui ouvre la bouche de l'enfer. On pourrait peut-être dire aujourd'hui, je sais pas, on se retrouve contraint je sais pas, d'acheter des biens de consommation qui vont nous rendre malheureux parce que c'est des biens qui sont. La drogue, voilà. La drogue, c'est quelque chose. Quand on va distiller ça, on va créer une dépendance et on va rendre malheureux les gens à qui on deal, quoi. Voilà. Donc, il est en train de mettre en place, en fait, Pharaon, des structures de péché, en fait. C'est ça, les mauvaises plantes, c'est les structures de péché qu'on trouve dans le pays et qui vont rendre difficile la vie au quotidien pour des gens qui ont juste envie de vivre sans forcément chercher à prendre le pouvoir, parce que là, je ne crois pas que c'était l'objet chez les Hébreux. Moi, j'ai fait le parallèle avec ce qu'avait dit une des voyantes de la Salette, Mélanie Calva, en 1986. Elle parle de trois structures de péché d'aujourd'hui. Il y a l'imprégnation mercantile, c'est-à-dire le dieu de l'argent d'aujourd'hui, hein, qui a totalement vénalisé la société, qui, depuis plus de 100 ans, a fait légaliser l'usure si sévèrement réprimée par les canons du Moyen-Âge. C'est-à-dire que dans la Bible, il est écrit, hein, que normalement, on ne doit pas prêter avec intérêt. C'est-à-dire, on ne doit pas écraser celui qui emprunte parce que déjà, il n'a pas d'argent. Voilà, il est pauvre. L'immigré, la veuve et l'orphelin, hein, c'est les trois à qui il manque quelque chose, hein. L'immigré, il n'a plus de patrie, la veuve, elle n'a plus de mari, et l'orphelin, il n'a plus de parents. Donc, il y a quelque chose de plus grave, finalement, de s'attaquer à ces gens-là. Et en rendant l'usure, c'est-à-dire le prêt avec des forts taux d'intérêt, en le rendant légal et presque incontournable, il y a une structure de péché qui s'est installée depuis 100 ans et qui rend le monde aujourd'hui plus difficile pour les gens qui y vivent. Voilà. Donc ça, là, il est dit, donc Mélanie Calva disait, ça a créé d'énormes masses monétaires qui circulent de plus en plus vite dans les artères de l'économie et qui impriment aux échanges un coefficient d'accélération absolument pathologique. Et donc tout est à vendre. Et dans l'Apocalypse, il est dit, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de lin fin, de pourpre, d'écarlate, de blé, de bestiaux, de brebis, de chevaux, des chars, des corps et des âmes d'hommes, en fait, parce qu'on commence par vendre des choses anodines et puis on en vient à vendre des hommes. C'est toujours, on monte d'un cran et à la fin, c'est du commerce d'êtres humains qui se passe. Voilà. Première structure de péché. Deuxième pour aujourd'hui, c'est la luxure, l'imprégnation érotique de notre société. qui frappe non seulement les moralistes chrétiens, mais les sociologues agnostiques. C'est sans doute de cette imprégnation que provient l'aveuglement des esprits à l'égard des choses de la religion. Voilà, elle fait un lien entre le fait qu'on érotise tout, qu'on n'arrive plus à garder une pudeur, en fait, à dire le corps est un temple de Dieu et qui sert pour des choses belles, pour le sacrement de mariage, pour... voilà, parce que le corps d'un prêtre avec une aube, finalement, manifeste la gloire de Dieu. Parce que le corps d'une religieuse consacrée manifeste la gloire de Dieu. Le corps de deux époux manifeste la gloire de Dieu, et pour leurs enfants aussi, et pour les gens qui les voient. Voilà, une deuxième structure de péché, et on voit que beaucoup d'attaques, finalement, d'après ce qu'elle dit, aujourd'hui, beaucoup d'attaques à l'encontre de la religion seraient des fruits de cette structure de péché qui va... rendre banale la luxure, en fait, qui va rendre banale l'érotisation à outrance. Troisième structure de péché, c'est l'imprégnation occultiste de la société qui crée une véritable contre-religion, donc c'est-à-dire les gens qui vont, par exemple, utiliser des prétendus dons pour guérir. Alors, il y a des personnes qui reçoivent ça de Dieu, mais il y en a un certain nombre, on va dire, qui font ça dans un but mercantile et qui vont invoquer les démons de manière très claire. Et même à la télé, même en France, on trouve des émissions où on montre des extraits comme ça, et je dirais que la superstition ambiante fait que les gens en rigolent quand ils voient ces émissions, mais avec un regard chrétien, on se dit, là par exemple, c'est des Africains qui vont prier auprès du marabout pour ensuite pouvoir ensorceler les gens qui sur Internet vont sur certains sites pas top et qui vont se retrouver peut-être encore plus liés parce que des personnes prient les mauvais esprits pour précipiter la chute des gens qui se perdent sur Internet. Voilà. Donc, on peut penser aussi à tous ceux qui font tourner les tables, il y en a beaucoup aujourd'hui qui se tournent vers le New Age, parce que aujourd'hui il y a un relâchement général, la trame chrétienne est moins présente en France, et donc ce fleuve qui irriguait avant la France est à sec ou pas loin, on va dire, les chrétiens sont très minoritaires, et donc ne sont plus retenus un certain nombre de mauvaises influences. On peut penser aussi aux choses en lien avec le yoga. Le yoga, c'est bon en tant que tel, parce que le yoga, normalement, c'est une discipline qui vise à faire le vide pour se libérer de choses inutiles. Voilà. Mais le yoga, il faut savoir que c'est dans des pays qui sont fortement religieux. C'est-à-dire que c'est des personnes, les hindouistes par exemple, les bouddhistes, qui croient dans les dieux, qui croient qu'ils sont un petit point dans l'univers, qui ne se reconnaissent pas comme le centre du monde. Voilà. Et donc, pratiquer le yoga dans un pays où on se met au centre du monde parce qu'on dit finalement, nous c'est l'athéisme et on ne veut pas de Dieu, présente des risques parce qu'on va ouvrir des portes de l'âme il n'y a pas de sacrement finalement pour irriguer notre vie spirituelle, des portes qui vont être utilisées par d'autres. C'est comme si on se mettait le corps, l'âme et l'esprit en situation de faiblesse, en situation de comme si on avait une prise électrique qu'on branchait et on ne savait pas à quelle prise on la branchait, voyez. Et donc, si on doit parler de ces choses qui affluent chez nous, il faut savoir simplement, attention, vous faites du yoga très bien, demandez au Seigneur, par exemple, de venir visiter votre séance de yoga, parce que c'est pas anodin, quoi. Enfin, faire certains exercices, faire certaines choses, on n'en ressort pas indemne, voilà. Donc, moi, je suis athée, je vais faire du yoga, j'ai des risques de, si des personnes prient des mauvais esprits juste à côté, finalement, que de me faire infester, alors que au départ, je serais pas venu avec des mauvaises intentions, voilà. Alors, si je viens à Sainte-Madeleine et que j'y connais rien, il y a des anges qui nous protègent ici. Il y a le sacrement, il y a la Vierge Marie, on n'est pas dans le même... vous voyez, c'est pas la même chose, quoi. On peut pas mettre ça sur le même plan aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est des structures de péché. Moi, je faisais le parallèle parce que je trouvais que c'est... Il y a des choses à dire, voilà. Donc, tout ça, finalement, le pharaon qui change les lois en faisant peur au peuple pour que le pays devienne hostile aux Juifs, c'est un exemple pour moi du semeur qui vient un peu par derrière parce qu'il va tromper son peuple et il va créer une forme de déséquilibre parce qu'oppresser une partie du peuple, c'est créer des déséquilibres entre différentes classes. C'est dire finalement les nobles, ça va être les Égyptiens, et les esclaves, ça va être les Hébreux. On va créer un déséquilibre social. Voilà. Donc on est une autre image du semeur occulte, si j'ose dire. C'est le roi. Quand le roi part en voyage, il y en a qui passent derrière lui et puis qui disent « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous ». Ça, c'est une parabole de Jésus. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous », c'est « Je sème la division, je sème la révolte contre le roi parti en voyage qu'on ne voit pas. Et en semant ça, je vais provoquer du désordre social. Quoi. Je vais modifier les lois, je vais faire en sorte que la révolte devienne le mot d'ordre, en fait. » Voilà. »